Assis à son bureau, Valéric entre dans l'ordinateur chaque information recueillie par ses adjoints. Debout derrière lui, Jolène et Amiel, silencieux, vérifient les lieux et les dates qui s'affichent sur l'écran. Jacob Santa Maria se trouvait en Guadeloupe avec sa maîtresse Janet Jiménez entre le 4 et le 11 avril 2003. Audrey Colomel se trouvait en Guadeloupe avec son compagnon de l'époque Ludovic Rossi entre le 28 mars et le 12 avril 2003. Shaim Assaidi se trouvait en Guadeloupe avec son père entre le 5 et le 12 avril 2003. Tous les six sont morts, assassinés ou victimes d'accidents. Il n'existe aucun point commun entre les victimes du harponneur, hormis le fait qu'elles se trouvaient en Guadeloupe entre le 5 et le 11 avril 2003. Qu'ont-elles vu? Qu'ont-elles entendu? Pourquoi vouloir les assassiner plus de 20 ans plus tard, y compris une palette qui avait 7 ans en 2003? Pourquoi maquiller trois autres crimes en accident des années auparavant? Valéric enregistre le fichier. Il sera envoyé à chaque agent de la DZPJ. Il n'y a plus désormais qu'une priorité, reconstituer par tous les moyens possibles le parcours en Guadeloupe de ces trois couples. Les collègues de Métropole se chargent de passer au crible les affaires personnelles des victimes. Albums photos, disques durs d'ordinateur, boîtes à souvenirs, ceux de Guadeloupe vont ratisser l'île. Il existe forcément des témoins, des registres d'hôtels, de locations, de voitures, des factures de restaurants. Ces trois couples ne se cachaient pas. Ils étaient en vacances. 2003, ce n'est pas la préhistoire. Internet existait ainsi que les réseaux sociaux et les premiers appareils photo numériques. Ils ont obligatoirement laissé les traces derrière eux. Une fois leur parcours connu, la solution s'imposera d'elle-même au point d'intersection de leurs trois itinéraires. C'est du moins ce que Valéric espère. Avril 2003. C'était quelques semaines après le procès de son père, quelques semaines avant son départ en métropole, quelques semaines de sa vie qu'il a tant essayé d'oublier depuis. 16 heures. Valéric a été convoqué chez le sous-préfet Le Cocu dans l'après-midi. Le commandant comprend vite qu'il risque au minimum un blâme sévère, ou plus vraisemblablement qu'on lui retire l'affaire. Il a le parfait profil du bouc émissaire. Le Cocu, assis derrière son bureau, a préparé ses arguments. Une enquête qui patine, 4 morts déjà, une île au bord de la rupture faute de résultats, un meurtrier qui se moque des autorités, et surtout une proximité très inappropriée avec Marie-Douce l'énervée. Proximité inappropriée. Valéric est un policier expérimenté. Il se tient au garde-à-bout, mais a préparé sa défense. Sans le contact de Madou, l'énervé, il n'aurait pas retrouvé aussi vite ce photographe, Anicette Larmure. Il n'aurait rien su de Jeannette Jiménez, la maîtresse de Jacob Santa Maria. Imaginez-vous vraiment, monsieur le sous-préfet, que j'ai pu constater et confier à Marie-Douce l'énervé des informations confidentielles sur l'enquête? Non, bien sûr que non, commandant. Valéric est un policier prudent. Avant même que le sous-préfet ait le temps de développer ses arguments, il pose sur son bureau le dossier avril 2003. J'ai besoin d'une mobilisation générale. Policiers, gendarmes, CRS, armée, appel à témoins dans tous les médias. L'inquiétude change aussitôt de camp. Valentin Le Cocu feuillette les documents. Avril 2003. C'est l'année de son entrée au lycée. Il avait 15 ans. Il envisageait sérieusement de travailler dans l'humanitaire, la défense des migrants, l'environnement. Il ferme le dossier et lève les yeux prudents. Une mobilisation générale? Il faut être réaliste, commandant. Mes gardes mobiles sont occupés à dégager les ronds-points. Dès qu'ils en libèrent un, trois autres sont occupés. Quant à votre appel à témoins dans les médias, ne va-t-il pas entraîner une nouvelle panique ? Ce qui entraînera une panique, monsieur le sous-préfet, c'est qu'un nouvel Ilien soit retrouvé harponné. Faites-moi confiance, seule l'arrestation de l'assassin libérera vos précieux ronds-points. Le cocu hésite encore, se penche à nouveau pour lire le dossier, tourne la page, finit par le refermer, se redresse, s'enfonce dans son fauteuil, le fait pivoter pour bercer ses pensées. Puis il se décide d'un coup. C'est d'accord. Mobilisez autant d'agents que vous voudrez et carte blanche pour l'appel à témoigner. Ne me décevez pas, commandant, et surtout évitez désormais de collaborer avec cette Marie douce, l'énervée. Je ne crois pas, monsieur le sous-préfet, qu'elle soit le genre de femme à accepter de collaborer. 17h30. Tout en repensant aux derniers mots du sous-préfet, Valéric enchaîne les virages de la route de la traversée. La seule voie permettant de relier l'est et l'ouest de Basse-Terre paraît avoir été coupée à la machette dans la forêt tropicale, puis bitumée sur le champ avant que les arbres géants ne repoussent de tous côtés. Le commandant s'accorde une pause chez lui avant de retourner à la DZPJ. Une sieste de quelques heures s'il parvient à s'endormir. Il a prévu d'être à la prison de Bay Mahol avant minuit et d'y passer la nuit. Si Évariste Pigeon a de nouvelles visions nocturnes, il tient à être présent cette fois et à réagir sans perdre de temps. La route prend des allures de tunnel percé dans la jungle. Le jour disparaît presque sous la canopée. Trois phares allumés. Valéric atteint le sommet du col des Mamelles. Il n'aura plus ensuite qu'à descendre sur Malendur. La radio du soir égrène depuis une demi-heure les avis de décès de la semaine. Le nom, les multiples prénoms et le surnom des disparus. La liste interminable des proches qui s'associent à la douleur, la date et le lieu de la veillée des corps, des obsèques, des inhumations. Valéric avait oublié cette macabre tradition antillaise. Il hésite à changer de fréquence, à en trouver une qui ne diffuse que de la musique, quand le présentateur annonce le décès de Niels Aubrey, le jeune pêcheur de Pointe-Noire assassiné sur la plage de la Perle. Rappelé à Dieu au cours de sa 24e année, les obsèques de Niels Aubrey se tiendront en église Saint-Pierre et Saint-Paul de Déret. Associons-nous maintenant à la tristesse des quatre enfants d'Antoinette Biabiani, dite Nana, partie ce 10 avril dans sa 96e année, rejoindre son bien-aimé mari André. La veillée de son corps aura lieu. Valérie coupe le son. Moins de 10 minutes plus tard, il se gare devant sa case, le long de la rue du Bois Malherbe. Il considère avec résignation la toiture rouillée, la façade fatiguée. S'il veut que sa maison résiste au prochain cyclone, il devra consolider la charpente, changer les fenêtres, l'assurer, les volets. « Bonjour, commandant !» Marie douce, l'énervée, forcément.